des livres plein les oreilles. Salut, c'est Clotilde Say. Aujourd'hui, première émission de l'année. On n'aura pas de mal à se souhaiter une meilleure année que celle qui vient de finir, du moins. Croisons-nous les doigts avec au menu du jour la communication. Ça, c'est un bon sujet pour ouvrir une année. Hein? Se promettre, plutôt que d'aller au gym qui de toute façon sont fermés, se promettre de mieux communiquer, pourquoi pas. Alors la communication, entre autres avec Guillaume Dulude, l'infatigable aventurier du langage et de la communication chez nous, comme dans les coins les plus reculés de la planète, c'est ce qu'il nous raconte dans le livre « Je suis un chercheur d'or ». Et il nous raconte que finalement, en matière de communication, nous n'avons absolument rien compris. Il n'y a aucun truc, mes amis, qui peut nous permettre de résoudre des problèmes complexes comme ceux inhérents à la condition humaine et à la communication humaine. Bon, ça demande des explications, ça tombe bien, parce que Guillaume Dulude va répondre à mes questions. Et puis en seconde partie, oh, j'ai plein de nouveautés attendues à vous faire entendre, dont un extrait de Barack Obama, le roi des tribuns, son nouveau livre qui est sorti en fin d'année dernière et maintenant ça y est, il est en audio. Là j'ai comme oublié le titre, je l'ai, voilà, Une terre promise, franchement Clotilde, mais c'est pas grave, c'est le début de l'année, c'est normal, je suis un petit peu rouillée. On va aussi parler poésie avec Baudelaire, le prince du spleen, et de Tolkien, le visionnaire. Juste avant de retrouver Guillaume Dulude, il faut que vous sachiez qu'au moment où je prépare cette émission, je viens d'apprendre la disparition d'Anne Sylvestre. Et évidemment, ça m'a bouleversé, comme la plupart d'entre nous, et comme on va beaucoup parler de mots avec Guillaume Dulude, eh bien voici les mots d'Anne Sylvestre.
Pardon si j'en mets trop et si c'est un fardeau pour vos oreilles. Les mots, chacun son petit pipeau, chacun son petit grelot qui le réveille. Il faut bien détecter les faux, les juger par défaut, par défaillance. Credo, promesse de cadeau, sauvetage ou radeau de l'espérance. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que je ne saurais dire. Les mots sont comme des oiseaux venus dans mes rameaux, dans mes bocages. Les mots ont planté des drapeaux sur tous mes chapiteaux, toutes mes cages. Tantôt je suis comme un chameau, je les mets sur mon dos, j'en suis avare. Tantôt je coule comme l'eau, je vis de mon tonneau, je m'en sépare. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que je ne saurais dire. Les mots sont aussi des bourreaux qui sentent le fagot, parfois le soufre. Les mots me ramènent à zéro quand j'use mon stylo et que j'en souffre. Héros, quand il faudrait plutôt déposer le couteau, devenir tendre. Palo, quand il faut illico, brandir un calicot sans plus attendre. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que je ne saurais dire. Les mots sont parfois des bateaux qui s'en vont à volo, sans équipage. Les mots s'abîment dans les flots d'un langage crado, sans une image. Mes goûts qu'on jette au caniveau, qui se perdent si tôt qu'on les oublie. Îlot d'un monde qui bientôt tirera le rideau sur notre vie. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que je ne saurais dire. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, vous êtes les plus beaux, mais j'ai dû vous le dire.
Voilà les mots de et par Anne Sylvestre qui nous amènent aux mots de Guillaume Dulude. Guillaume, vous êtes là ?
Oui.
Bonjour Guillaume, je suis ravie de vous avoir au bout du fil pour ce livre audio que vous avez lu vous-même, « Je suis un chercheur d'or ». Guillaume Dulude, voir un matin le gros titre dans la presse, l'homme le plus intéressant du Québec, ça monte pas un peu à la tête, ça?
J'ai été un peu surpris. J'ai pas été averti de ça. En fait, je me suis réveillé puis je me souviens que j'ai reçu des messages, de sortes de messages très positifs. Puis je me demandais, bon, c'est quoi ce que c'est? Tout ça, puis l'envoyer à l'article, je me suis dit, ah oui, waouh! Je me voyais pas comme ça, mais quel beau compliment.
Et Guillaume, la conclusion de ce papier est... Ce sont vos mots, c'est vous qui parlez. Vous dites, dans le fond, tribal, c'est une excuse pour parler du comportement humain, pour montrer à quel point on est beau. Pour faire un petit rappel, tribal, c'est cette émission qui nous permet de vous voir dans des contrées très éloignées de nous, aller à la rencontre de tribus, certaines qui sont en train de disparaître, et vous vous montrez là comme un espèce de... On prend une leçon... de communication énorme avec cette émission-là. Ça, c'est tribal pour les gens qui ne l'auraient pas vu. C'est disponible sur tout.tv. Est-ce que le bouquin, c'est le prolongement de cette émission-là? Parce que vous dites que c'est une excuse pour parler du comportement humain, cette émission, et pour montrer à quel point on est beau.
Hein? Mm-hmm. Je dirais que c'est intrinsèquement relié parce que oui. J'ai commencé à faire certaines expérimentations, autant en neuropsychologie, en psychologie, que dans la vraie vie, dans des contextes un peu inusités tels que des tribus, il y a déjà 17 ans. Et donc, pour moi, les aventures, les expéditions partout dans le monde, la rencontre des humains en général s'inscrit dans une recherche autant pratique que théorique sur les communications humaines puis, et les relations humaines. Je dirais qu'un va avec l'autre. Mm-hmm. C'est comme si c'est arrivé en même temps, ça, dans ma vie, cette passion-là, des humains, cette passion-là de la communication humaine. C'est arrivé dans un même voyage, en fait, que j'ai fait quand j'avais 20 ans. C'était mon premier voyage autour du monde. Et tout s'est passé là, en fait.
Et pas un voyage facile, hein? On pourrait penser, ah, 20 ans, les cheveux longs, le sac à dos, youpi, les gougounes, mais... Non, ça n'a pas été évident pour vous, hein, Guillaume?
Ah non, vraiment pas. C'était le voyage le plus difficile de ma vie parce que veux pas, avant de communiquer avec les autres bien, il faut que tu puisses communiquer avec toi bien. Donc, on parle pas beaucoup de communication interne, mais il y a un dialogue interne qu'il faut savoir. Donc, il y a des règles qui s'appliquent autant dans la communication avec soi que la communication avec l'autre. Et s'il y a des opérations qu'on ne sait pas comment faire avec soi-même, c'est impossible pour le cerveau de le faire avec les autres.
D'ailleurs, je regrette infiniment, peut-être pour vous encore plus que pour les autres, qu'on fasse cette entrevue par téléphone, parce qu'il me semble que là, on rate plein d'occasions de communiquer pour vrai, hein? Si je...
C'est sûr que le cerveau aime bien l'information visuelle, qui est la formation la plus riche, et le cerveau est désigné pour traiter l'information visuelle avec une très, très grande richesse plutôt que l'information strictement sonore. Mais écoutez, il y a quand même moyen de compenser ça, de compenser de la relation en juste avec des signaux auditifs.
Alors, vous avez parlé de ce premier voyage, mais moi, je trouve que votre, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, votre premier contact avec la communication, la première leçon que vous avez reçue de la vie, et je devrais plutôt dire de votre maman, vous l'avez reçue tout jeune au niveau de la communication. Je voudrais qu'on écoute un extrait. C'est donc vous, Guillaume Dulude, qui lisez un extrait de votre livre, « Je suis un chercheur d'or ».
Dès le début de l'école primaire, j'étais anxieux pour une raison précise, l'amitié. Je l'ignorais à ce moment, mais mon but n'était pas de créer des relations, mais bien d'éviter le sentiment de solitude. Dès mon réveil, j'étais hanté par la crainte de me retrouver seul à la récréation. Je me suis alors fixé un objectif. Me faire le maximum de nouveaux amis chaque jour. C'était ma mission. Lorsque ma mère revenait me chercher à la fin de la journée, je lui dévoilais avec fierté le nombre de mes nouveaux copains. « J'ai 3 nouveaux amis aujourd'hui. » Un jour, après une de mes journées particulièrement fructueuses, elle m'a demandé « Est-ce que tes nouveaux amis savent qu'ils sont tes amis? » Effectivement, je n'avais pas cru bon de les en informer. Devaient-ils forcément être au courant? En fait, je leur avais donné une sorte de promotion unilatérale. Mes exigences étaient simples. Une seule conversation avec un autre enfant marquait le début d'une nouvelle amitié. Et cette illusion avait réussi à me rassurer.
Et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti.
Oui.
Avoir une passion, Guillaume Dulude, pour la communication. On se dit, dans un premier temps, quelle drôle d'idée. Mais en même temps, l'être humain est tout le temps en mode communication, même quand il est bébé, même quand il ne parle pas. Comment ça se fait qu'on ne l'apprend pas dans nos écoles, Guillaume Dulude?
Je pense que la raison est relativement simple, c'est que c'est encore un univers qui est flou pour la plupart des gens. Et les humains s'organisent autour du maximum de certitudes. Donc, ce qu'on enseigne à l'école ou dans le monde académique, ce sont des choses qui sont fiables, desquelles on est sûr, puis qu'on est capable d'interagir avec le système qu'on a créé. Ce qui est une bonne chose. C'est très correct, ça. Mais je pense, et la contribution scientifique en ce moment, c'est de savoir, mais est-ce qu'il y a des choses réellement claires et tout aussi certaines qu'on peut apprendre par rapport aux relations humaines et à la communication? Moi, j'ai écrit ce livre-là pour dire, oui, il y a des choses claires. Il faut sortir vraiment du monde du flou, du théorique ou du vague. C'est très précis, la communication, et la science est rendue là. Donc, pourquoi se fermer les yeux là-dessus alors qu'il y a tellement de gains dans les relations humaines, dans la capacité de communiquer, d'influencer les autres positivement. Et ça se montre en plus, et ça en plus, ça a des conséquences positives sur l'efficacité personnelle d'une personne, la capacité à contribuer dans une société, la diminution des troubles anxieux, la diminution de la dépression. Il y a tellement d'avantages dans cette façon-là de communiquer que, selon moi, on est rendu là. C'est juste un nouveau stade de l'humanité, selon moi.
Je vous avoue que j'avais quelques certitudes dans le domaine de la communication, certitudes que vous avez un peu ébranlées, Guillaume Dulude. Soudain, je ne suis plus du tout certaine de rien. Ça vous fait quoi quand on vous dit ça?
Oui, il y a quelqu'un d'autre qui me dit ça aujourd'hui. En fait, dans une autre entrevue, un spécialiste de la vente qui entraîne de la vente et qui disait, Guillaume, moi, j'enseigne à tous mes clients en Amérique du Nord que quand tu rencontres un client, il faut que tu parles de, par exemple, la photo de son voilier qu'il y a sur son bureau, comme ça, tu trouves un sujet commun. C'est comme... C'est pas que ça va faire zéro effet. C'est juste que je dis, le futur de la communication, t'as même plus besoin de ces espèces de béquilles-là, de trucs. Les réponses sont déjà là, directement devant toi, là. Tout est fait. Et la communication, selon moi, c'est 99% d'écoute. Donc, il faut savoir exactement quoi écouter pour faire en sorte que les gens s'ouvrent tranquillement et que là, l'énergie augmente, l'énergie relationnelle, l'énergie de la motivation, l'énergie des buts communs. Donc, oui, je suis conscient que ça ébranle des choses, mais c'est comme l'art, c'est comme la...
Mais j'aime ça, hein? Ça me dérange. Non, parce que moi, ça me dérange. Ah ouais, non, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça me permet d'avancer parce que il y a des fois où bon, il m'est arrivé de donner des formations en com, en communication orale, notamment. Oui. Puis je me dis, mais voyons, on fait du sur place. On fait du sur place. Je veux dire, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et je suis ravie que vous ayez ébranlé certaines de mes certitudes. Guillaume Dulude, on le voit dans l'émission Tribal, vous maîtrisez, je ne sais pas si vous allez sûrement mettre un petit bémol là-dessus, l'art de mettre en confiance des peuplades, des tribus que vous avez choisi de rencontrer. Vous écrivez vous-même que vous avez votre truc, quand même si vous n'aimez pas les trucs de communication, vous en avez un, vous avez une façon de faire. Est-ce que c'est si différent de la façon de faire avec ces peuplades qu'ici, chez nous?
Ben c'est ça, c'est que non, c'est toujours la même chose.
Exactement.
Les humains, là, se ressemblent beaucoup plus qu'ils sont différents. Il y a des différences entre les cultures, entre les ethnies, entre les hommes et les femmes, entre les hommes entre eux, entre les femmes. Il y a de la différence interindividuelle, et c'est vrai. Mais il y a la majorité des choses qui rassemblent les humains qu'on a de commun. Et donc, on est capable de s'appuyer sur des mécanismes qui fonctionnent avec les humains de façon générale, ce qui fait en sorte que moi, c'est devenu facile pour moi parce que j'utilise les mêmes genres de méthodes que j'adapte en fonction des circonstances, en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle me donne dans l'instant présent. Mais je fais exactement la même chose. Puis comme j'ai confiance en les mécanismes, en fait, je vais t'avouer que je me déresponsabilise d'avoir confiance en moi. Je n'ai pas à avoir confiance en moi. J'ai confiance en une méthode, j'ai confiance en des mécanismes, des principes. Et c'est ces principes-là qui travaillent à ma place. Moi, je suis juste Guillaume Dulude et c'est tout. Et la personne en face d'elle va être elle-même, et c'est tout. Et on n'a rien besoin de créer. Et ça, pour moi, c'est la définition de ce que j'appelle la beauté chez l'humain.
J'aime les images, Guillaume Dulude. Et par exemple, il y a celle que vous utilisez à un moment donné, par hasard, finalement, par adon, celle de parler avec des élèves. Je pense qu'à ce moment-là, vous enseignez la natation parce que vous avez beaucoup nagé vous-même. Et tout d'un coup, vous découvrez que parler avec vos élèves pendant une dizaine de minutes avant de commencer l'entraînement, ça les faisait s'améliorer quasiment plus que de leur donner des conseils sur les gestes et sur les bons gestes à poser. Ça m'a plu beaucoup.
Ça m'a plu beaucoup aussi quand je me suis aperçu de ça. Parce que moi, la natation, ça joue un grand rôle pour moi parce que ça m'a fait prendre conscience qu'un humain va interagir avec l'univers, avec son environnement, avec différentes composantes qu'il y a à l'intérieur de lui. Mais avec un dialogue, avec la façon dont on parle, tu réveilles des ressources. Tu réveilles des stratégies, tu réveilles du dévouement, tu réveilles du courage. Et ce sont des impacts relationnels. Et ceci, c'est de l'énergie qui est transférable d'un domaine à l'autre. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que la relation, c'est comme une espèce de fil conducteur entre deux personnes, puis là, ça bouge plus, puis c'est comme quelque chose de fixe. Non, ça disponibilise quelque chose, entre autres, comme on documente très bien l'effet placebo, qui est une grande composante relationnelle là-dedans. Il y a de l'énergie là-dedans, c'est très puissant. Et quand on est capable de canaliser cette énergie-là dans une tâche, bien, la tâche se transforme. Et c'est ça que ça m'a fait prendre conscience, la natation, avec le coaching et le dialogue avant.
Moi, je retiens trois mots sur un livre de 590 pages. C'est quand même pas mal. je pense que vous avez réussi votre communication. Je retiens empathie, écoute et vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, je voudrais que vous nous en parliez parce que votre notion de vulnérabilité n'a peut-être rien à voir avec celle qu'on pense. C'est-à-dire que quand on se sent vulnérable, on se sent tout petit, mais c'est pas tout à fait ça en communication, Guillaume Dulude.
Oui, je trouvais vraiment important de redéfinir qu'est-ce que c'est la vulnérabilité parce que c'est un outil de travail et ça doit être le centre de toutes nos communications, mais ça a une mauvaise presse, comme vous disiez, là. La vulnérabilité, dans notre culture, c'est relié à de la faiblesse, à de la souffrance, à de la détresse, au fait d'être dépourvu, au fait d'être abusé par l'environnement, au fait d'échouer. Donc, c'est une connotation extrêmement négative. Donc, évidemment, notre cerveau veut pas se vulnérabiliser parce qu'il pense que la vulnérabilité va nécessairement aboutir à ces conséquences-là. Mais ce que j'amène dans le livre, c'est que c'est pas du tout ça, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une action interne qui permet d'accéder à quelque chose. C'est le fait de voir quelque chose, d'accéder à quelque chose. Donc, le fait de se donner cette permission-là, ça ouvre une possibilité interne. Et cette action-là, cette volonté-là dans l'instant présent, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, c'est pas ni de la souffrance, ni des émotions négatives, et ni moins, et encore moins des sujets de conversation personnelle. C'est pas, la vulnérabilité ne veut pas dire parler de choses profondes et personnelles et douloureuses. Ça veut juste dire se donner une permission d'être vu et de voir. Et c'est tout petit. C'est pas des grosses choses, mais les gens qu'on qualifie comme étant sympathiques ou authentiques ou vrais, ils font cette action-là. Ils font le choix de dire « je laisse transparaître quelque chose qui est réellement moi dans l'instant présent » et ça amène l'interlocuteur à répondre de cette façon-là. Donc là, tu as ce qu'on appelle une co-vulnérabilité et là, l'énergie relationnelle augmente parce que la relation est une conséquence des fluctuations de vulnérabilité.
Autrement dit, si, parce que, vous savez, il y a le neuropsychologue qui connaît bien son boulot et qui s'exprime beaucoup là en ce moment à ce micro et dans le livre, je voudrais être complètement clair, peut-être pour les gens qui nous entourent, qui n'ont peut-être pas l'habitude, comme moi d'ailleurs, de trouver ces termes-là en termes de communication. Vulnérabilité égale authenticité, sincérité, vérité, être nu?
Oui, je dirais que c'est quelque chose comme ça. Puis après ça, il y a le dosage
en fonction
du contexte. Parce que souvent, les gens disent « Oui, mais à un instant, j'ai pas le goût de me mettre à nu dans n'importe quelle circonstance. » Et il y aurait raison.
Mais parce que raison,
c'est comme un peu la vitesse dans un véhicule. Si tu vas trop vite dans un contexte qui est dangereux, tu vas avoir un accident. Mais ça serait faux de dire que l'accident, c'est causé strictement par la vitesse. C'est causé par une trop grande vitesse à cet instant-là. Donc, dans une circonstance de dialogue, c'est-à-dire de quel niveau de vulnérabilité on a besoin en ce moment juste pour faire un pas de plus. C'est pas une ouverture qui est à 100% ou à zéro. C'est pas dichotomique. Donc, tranquillement, c'est quelque chose qui doit fluctuer progressivement vers le haut, cette vulnérabilité-là.
Je vous propose un second extrait. Je suis un chercheur d'or de Guillaume Dulude. Voyons, je vais finir par le dire. Et lu par Guillaume Dulude. Avouez que ça fait beaucoup de lu. Et je suis un peu perdu. Ma langue a fourchu. Allez, un autre extrait.
Encore aujourd'hui, je sais que l'habileté que j'ai alors développée était probablement la plus importante. Faire face aux communications. Choisir de communiquer. Faire face à ce que je ressentais. Plus difficile encore, faire face à ceux que j'aimais le plus. Faire face au risque de déplaire. Tout faire pour ne pas éviter de parler. J'étais anxieux d'aller à l'école car je savais que je devais tenir la conversation à laquelle je m'étais entraîné la veille. Pour un enfant, comme pour un adulte, parler de quelque chose d'important à une personne qui compte n'est rien de moins qu'un acte de courage, autant que de se rendre dans une tribu cannibale ou d'affronter des soldats armés. J'ai rapidement été forcé de prendre conscience du fait que la communication interpersonnelle est une activité stratégique en soi.
Et vous faites référence notamment à certaines pages qu'on retrouve à la fin de votre livre, en face effectivement de ces soldats armés. C'est très intense, hein. Vous en avez passé des moments. Vous êtes nourri beaucoup certainement par ces moments-là, Guillaume Dulude.
Oui, bien, j'ai comme fait, je dirais consciemment ou inconsciemment, des démarches pour me mettre en situation un peu de défis interpersonnels dont certaines histoires sont expliquées dans le livre. Et oui, en Irak, entre autres, en Irak, ben l'anxiété est très élevée. Puis c'est justement quand l'anxiété est élevée qu'il faut s'asseoir sur des mécanismes qui sont très fiables parce que les émotions, c'est puissant, hein, à tous les âges. Nos émotions sont fortes. Donc, oui, ça a très certainement forgé ma façon de conceptualiser les interactions humaines et la communication.
Comme on va bientôt se quitter, ben oui, ça passe toujours vite quand c'est intéressant comme ça. il y a cette phrase, moi, que j'ai retenue dans ce bouquin, « Je suis un chercheur d'or », quand vous dites que quitter une tribu de façon positive et sécuritaire, c'est ce qui demande le plus d'habileté relationnelle. Wow, oui. Ça m'a... Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus, Guillaume Dulude?
Oui, bien, c'est que au début, quand je ferais des contacts avec certaines communautés, bien, puis c'est le stress qu'on a de se faire accepter, de créer une relation, parce que si tu ne crées pas de relation dans une tribu qui est très éloignée, bien, tu es tout seul dans cette région-là éloignée. Mm. Donc, tu n'es pas sécuritaire. Donc, les humains, dont moi-même, est sécuritaire, on est sécuritaire en étant dans des groupes. Donc, c'est vital que je me fasse accepter, mais on dirait que je m'étais jamais posé la question « OK, mais comment tu t'en vas après? » Ben c'est comme « tu t'en vas, c'est terminé. » Mais j'ai vécu plusieurs situations dans des communautés où les relations, c'est autrement plus important que dans nos cultures en ce moment, parce que c'est très accessoire. Il y en a qui considèrent les relations comme très accessoires. Tu peux jeter les autres, tu peux swiper à gauche, à droite. Tu sais, tu t'en vas quand tu veux. Dans des communautés traditionnelles, c'est très important, puis c'est comme ça que l'humain est forgé. Donc, briser des relations, s'en aller, ça nécessite beaucoup plus de préparation,
de doigté,
de complexité. Oui. C'est très difficile. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment sous-estimé, même jusqu'à récemment, où j'avais amené un groupe dans une tribu où est-ce qu'on a failli y passer, parce qu'on a j'ai mal pesé les variables, puis c'était mon erreur. Oui.
Mais parce que j'aimerais savoir par curiosité, derrière la caméra, parce que j'ai visionné évidemment la série qui m'a absolument passionnée, et vraiment je recommande à tout le monde, si vous l'avez manqué, allez sur TV5, vous savez, sur les émissions.ca, et vous allez, oui j'ai dit tout.tv tantôt, mais c'est pas vrai, c'est sur TV5.ca, et vous allez revoir ces émissions-là, c'est vraiment fascinant. Et là je voulais en venir où? Eh bien, j'ai perdu mon idée. J'ai perdu mon idée. C'est parce que de toute façon, c'est pas avec vous, j'en ai tellement. Vous savez, j'avais du stock pour passer l'après-midi avec vous. Et puis, voyez-vous, qu'est-ce que vous voulez, ça s'appelle vieillir, Guillaume.
Alors, ben, on va se reprendre.
Ah, on va se reprendre, oui, exactement.
Ben oui, on va en faire une autre, là. On va pas rester ça comme ça.
Non, mais je voudrais retrouver un petit peu cette idée. Oui. On nous parle, et je voudrais qu'on se quitte là-dessus, on nous rebat, il nous reste 3 minutes, mon ami, on nous rebat oui. les oreilles avec la confiance, avec la conscience, non pas active, mais comment on appelle ça, la pleine confiance. Vous parlez plutôt d'une conscience dynamique. Qu'est-ce que c'est pour vous que la conscience dynamique?
En moins de 3 minutes, c'est...
Ça va être dur. OK, selon... ça m'a fait plaisir.
En un mot, c'est qu'il y a des processus conscients qu'il y a dans notre cerveau et il y a différents types de niveaux de conscience et je pense qu'un des niveaux de conscience qu'on a besoin de développer, c'est une conscience qui est interactive, c'est-à-dire qui prend en compte différents types d'informations dont l'énergie et dont le mouvement, parce que je pense qu'il y a une conscience d'un mouvement directionnel que les humains sont capables de doser, sont capables d'organiser, de sentir, et c'est ce type de conscience-là qui est en mouvement, qui doit être utilisé dans un dialogue.
Grâce au cerveau, notamment, ça je n'en revenais pas, qui est capable de saisir, bien avant d'ailleurs, la conscience, un geste, un tic, une information visuelle quoi, sur la face de la personne avec qui on discute. Oui. C'est pour ça que je regrette que vous soyez. Si vous aviez été en studio, d'ailleurs, j'ai bien retenu la leçon, vous auriez été en face de moi, pas de biais.
Oui, oui, hein? oui idéalement.
Ah oui. Non, mais attendez, là, j'ai tout lu ça, moi. mes notions de la communication, tout d'un coup, ont explosé littéralement, Guillaume Dulude. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue-là. Merci d'avoir accepté de lire vous-même cette brique assez imposante. Qui, je trouve, devrait se retrouver dans toutes les bonnes écoles de communication. Ils vont être ébranlés aussi, mais ça fait rien. Ça va faire avancer la machine. Est-ce que vous repartirez dans des contrées?
Oui, je repars en Afrique du Sud faire des expéditions avec des groupes. On va dormir avec des lions, des rhinocéros, des éléphants et tout ça. Fait qu'on va apprendre à dialoguer avec la nature. Fait que parler avec des lions, parler avec des éléphants.
Vous savez que moi, j'ai étudié en éthologie pendant quelques années.
Ah oui?
Alors, que ça m'aurait intéressé de faire ça.
Ah oui, c'est l'éthologie, ça.
Oui, monsieur. Merci beaucoup, Guillaume, vraiment, de nous ouvrir à tous ces horizons-là, aussi bien en communication, mais aussi horizon vers ces contrées, vers ces tribus qui ont tant à nous apprendre. Et je suis contente aussi que vous ayez pu être nos yeux, nos mains, nos oreilles. Et arriver avec ces beaux cadeaux quand vous arrivez pour les voir, ces poulets, ce riz, ce tabac, ce machin. Bravo, Guillaume.
Ben merci.
Très
le fun. Ce n'est que le début. On continue.
Ah, d'accord. Prenez soin de vous. Au revoir.
Merci. Bye bye.
Et bonne année. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Alors, le voici, le voilà, le livre promis. Il existe maintenant, lu à haute voix en français pour Audiolib par Jérémy Covillot. Et j'en ai un extrait pour vous, l'énorme succès de la bio de Barack Obama, La Terre Promise. Oh, si j'osais, je dirais qu'Obama casse la baraque. Oui, mais enfin bon. J'oserais pas, alors je le ferai pas. Alors, et puis aussi, cette petite nouvelle, il va y avoir une collecte de fonds mondiale pour créer la maison-musée de Tolkien qui va nous amener, bien évidemment, nous ici, à l'émission de Livres plein les oreilles, à écouter du Tolkien en livre audio. Et puis, quitte à faire dans la science-fiction, tiens, un bon Murakami, ça se prend bien. Et si le spleen vous dévore en ce début d'année, j'ai pour vous une nouveauté de chez Gallimard, écoutez lire, Crénom Baudelaire, c'est lu par Dominique Pinon, mais si vous préférez un bon vieux classique, j'ai aussi ce qu'il vous faut, parce que vous pourriez craquer pour la lecture de Juliette Binoche de L'amant de Marguerite Duras. Ben oui, il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts, que vous nous écoutiez en balado, ou encore via Canal M, ou encore via CKVL, juste avant d'écouter Crénom Baudelaire. Parlant de poésie, je suis tombée sur ce texte de Ferré qui concerne la poésie moderne. un texte écrit en 1956.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, en employant que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart et Morcel, accompagnés à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui dament le plomb au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat.
Ça aurait pu être écrit, je trouve, en 2020, ça. Créer Léo Ferré. Et créer, non, Baudelaire. C'est une nouveauté chez Gallimard. Audio, écoutez lire. C'est un texte qui fait à peu près 8h35 minutes. Un texte qu'on doit à Jean Tellet. Jean Tellet qui a déjà écrit un livre sur Rimbaud, un autre sur Verlaine et un autre sur Villon. Et Jean Tellet, donc, qui se devait, nous dit-on dans le résumé que j'ai trouvé chez Gallimard, se pencher sur la vie et l'œuvre de Charles Baudelaire, une œuvre qui éblouit, un personnage qui fascine, un homme au caractère absolument épouvantable, qui ne respectait absolument rien, qui méprisait les usages et les êtres humains en général, qui n'a eu d'autre ambition que de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie, une poésie qui plaisait bien d'ailleurs à M. Léo Ferré. Il a réuni à travers 100 poèmes l'ignoble et le sublime et il les a jetés à la face de l'humanité, nous dit-on dans ce résumé, 100 fleurs du mal qui ont changé à jamais le destin de la poésie française. C'est une voix qu'on commence à bien connaître dans le domaine du livre audio, celle de Dominique Pinon. Pour vous lire ce texte de Jean Tellet, Crénon, Baudelaire, il va tellement encore mieux le dire que moi, ce...
Crénon ! Au sortir du portail baroque de l'église Saint-Loup de Namur, Un homme qui aura bientôt 46 ans loupe une marche et tombe sur le front, à même le parvis, en jurant. Des deux qui l'accompagnent, le plus jeune, fringant trentenaire, rigolard et bariolé à l'accent wallon très prononcé, fait mine d'être offusqué par ce qu'il vient d'entendre. Même en utilisant sa forme contractée, on ne sort pas d'une église en s'écriant « Sacré nom de Dieu, ça n'est pas possible, ça, sais-tu, monsieur, le Seigneur vous aura puni !» Le second ami, corpulent personnage, autrement raisonnable, déjà accroupi près du corps à plat ventre, le retourne sur le dos en lui disant, dans un français plus conventionnel, « Eh bien, dites donc, quelle chute, hein ?»« Crenons !» paraît ne pas en revenir l'accidenté aux airs devenu complètement ahuri. Il est sonné. Félicien, prenons-le chacun sous une aisselle pour le remettre sur pied. Le jeune Belge farfelu le hisse du côté droit pendant que l'autre, qui parvient à le maintenir bien en appui sur la jambe gauche, s'en trouve soulagé. « Ça va, on peut vous lâcher ?» demande-t-il en écartant un peu ses paumes, mais la victime, répétant « Crénon !» bascule vers Félicien qui s'en amuse. « Vous choisissez de plonger dans mes bras plutôt qu'entre ceux d'Auguste, merci, cela me met en bonne gaieté !»« Mais redressez-le, bon sang, Félicien, soyez sérieux !» s'agace Auguste. « J'essaie, mais il s'écroule par là. Regardez ce bras qui semble n'avoir plus d'énergie comme il balance !» Et en dessous, cette jambe, si je l'attrape par le pantalon, elle ondule telle de la guimauve. On dirait qu'elle est devenue de ce côté-ci une poupée de chiffon. Bordel de Dieu, commente Auguste. Oh, ben dites donc, ça jure les Français, hein, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Me reconnaissez-vous, savez-vous qui je suis ? Demande le plus âgé des amis à l'acrobate maladroit qui s'est étalé sur le parvis. Celui-ci le regarde, comme s'il venait de le découvrir. Très étonné. Crénon.
Crénon Baudelaire, lu par Dominique Pinon. Vous trouvez ça notamment chez Gallimard dans la collection Écoutez lire, mais aussi sur plein d'autres plateformes qui offrent des livres audio. Un classique, tiens, L'Amant. L'Amant de Madame Duras, évidemment, lu par Juliette Binoche. C'est un seul CD audio, ça dure environ 3 minutes 20 et c'est paru à la fin du mois de novembre de l'an dernier. J'ai trouvé sur un site ces quelques mots de François Nourricier à propos de Marguerite Duras et de ce livre L'Amant. Il écrit, François Nourricier, dès les premières lignes du récit éclatent l'art et le savoir-faire de Duras, ses libertés, ses défis, les conquêtes de 30 années pour parvenir à écrire cette langue allégée, neutre, rapide et lancinante à la fois, capable de saisir toutes les nuances, d'aller à la vitesse exacte de la pensée et des images. Un extrême réaliste, on voit le fleuve, on entend les cris de Cholon derrière les persiennes dans la garçonnière du Chinois, et en même temps une sorte de rêve éveillé, de vie rêvée, un cauchemar de vie. Cette prose à nul autre pareille est d'une formidable efficacité, à la fois la modernité, la vraie, et des singularités qui sont hors du temps, des styles et de la mode. C'est Juliette Binoche, avec une voix vraiment saisissante, qui nous emporte dans la jeunesse de Marguerite Duras, à travers cette histoire d'amour déroutante et incontournable.
Je me souviens des cours de comptabilité pour mon petit frère, de l'école universelle tous les ans, à tous les niveaux. « Il faut rattraper », disait ma mère. Ça durait 3 jours, jamais 4, jamais, jamais. On jetait l'école universelle quand on changeait de poste. On recommençait dans le nouveau. Ma mère a tenu 10 ans. Rien n'y a fait. Mon petit frère est devenu un petit comptable à Saigon. L'école Violet n'existant pas à la colonie, nous lui devons le départ de mon grand frère pour la France. Pendant quelques années, il est resté en France pour faire l'école Violet. Il ne l'a pas faite. Ma mère ne devait pas être dupe. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait séparer ce fils des 2 autres enfants. Pendant quelques années, il n'a plus fait partie de la famille. C'est en son absence que la mère a racheté la concession. Terrible aventure. Mais pour nous, les enfants qui restaient, moins terrible que n'aurait été la présence de l'assassin des enfants de la nuit du chasseur.
Voilà une autre façon de découvrir L'Amant de Marguerite Duras en livre audio, tel que lu par Juliette Binoche. Et puis voilà cette terre promise que nous attendions toutes et tous. C'est le livre de notre président préféré, le livre de Barack Obama, un livre lu par Jérémy Covillot. C'est une production qui nous vient de chez Audiolib en France et c'est sorti le 19 décembre dernier. Mais évidemment, les fêtes pas fêtées obligent. Ce n'est qu'aujourd'hui que je peux vous en présenter un extrait. Le résumé du livre audio nous dit ceci. C'est un récit fascinant et profondément intime de l'histoire en marche par le président qui nous a insufflé la foi dans le pouvoir de la démocratie. Dans le premier volume passionnant et très attendu de ses mémoires présidentielles, Barack Obama raconte l'histoire de son improbable odyssée. De jeune homme en quête d'identité à dirigeant du monde libre, retraçant de manière singulièrement détaillée et personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat de sa présidence de 2008 à 2012. En se retournant sur l'histoire de sa présidence, Barack Obama propose une exploration unique et pénétrante de l'amplitude phénoménale mais aussi des limites du pouvoir présidentiel, ainsi qu'un témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure et de la diplomatie internationale. Il évoque en toute franchise les forces d'opposition qui se sont dressées contre lui, sur le front domestique comme à l'étranger. C'est un livre puissant, c'est un livre magnifiquement écrit. C'est l'expression de la profonde conviction de Barack Obama. La démocratie n'est pas un don du ciel, mais c'est un édifice fondé sur l'empathie et la compréhension mutuelle que nous bâtissons ensemble, jour après jour. Ça prenait une bonne voix, celle qui a été choisie par Audiolib et celle de Jérémy Covillot. Voici un extrait du livre de Barack Obama, « La Terre promise ».
Je souhaitais d'abord et avant tout rendre compte avec honnêteté des années de ma présidence. Pas seulement évoquer les événements historiques qui avaient jalonné mes deux mandats et les personnalités importantes que j'avais côtoyées, mais également raconter certains vents contraires, politiques, économiques et culturels, qui avaient défini les défis à relever par mon gouvernement et les choix que moi-même et mon équipe avions fait en conséquence. Je voulais, autant que possible, offrir au lecteur une idée de ce que c'est qu'être président des États-Unis. Je voulais lever un coin du voile et rappeler aux gens que, au-delà du pouvoir et du faste, il ne s'agit que d'un travail, que notre gouvernement fédéral n'est qu'une entreprise humaine comme n'importe quelle autre, et que les hommes et les femmes employés à la Maison-Blanche connaissent le même mélange quotidien de satisfaction, de déception, de tension au bureau, de bourdes et de menus triomphes que le reste de leurs concitoyens. Je voulais en définitive raconter une histoire plus personnelle, susceptible d'inspirer les jeunes gens envisageant une carrière dans la fonction publique. Comment mon parcours politique avait réellement démarré, alors que je cherchais une place qui me conviendrait. Un moyen d'expliquer les différentes branches enchevêtrées de mon héritage. Et comment ce fut seulement en arrimant mon chariot à quelque chose de plus ample que moi, que j'avais finalement été en mesure de me trouver une communauté et un but dans la vie.
Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique. Je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broté d'argent, ou sans un sou mais plus riche.
riche qu'avant de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux ont chanté sans fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je...
Oui, ça aurait pu être aussi Amer America de Luc de la Rochelière, mais ça a été... L'Amérique de Joe Dassin. Figurez-vous, ça c'est dans les nouvelles qui nous concernent, et qu'il y a une collecte de fonds mondiale qui est en train de s'opérer pour créer la maison-musée de Tolkien. Cette maison-musée est située à Oxford et on se demande si un jour elle pourrait bel et bien devenir un musée. Vous pouvez aider à créer le premier centre du monde consacré à Tolkien, indique le site Project Northmore, N-O-R-T-H-M-2-O-R. Il s'est installé dans les années 30 avec son épouse Edith, Monsieur Tolkien, qui vécut pendant 17 années entre ses murs. C'est dans cette maison que Tolkien a écrit Le Hobbit, a écrit Le Seigneur des Anneaux, les œuvres majeures pour lesquelles le public le connaît aujourd'hui. Vous savez qu'il y a déjà des gens qui ont participé à cette collecte, et des gens célèbres comme Annie Lennox, Martin Freeman et d'autres. Alors on dit que ce projet vise la collecte, attendez, c'est pas rien, là, ça prendrait 4,7 millions de livres, autrement dit 5,2 millions d'euros, autrement dit à peu près 7,5 ou 6 millions de dollars, je dirais, d'ici au 15 mars prochain. Et ils entendent bien pouvoir faire participer, impliquer les fans du monde entier. C'est pour ça que je vous en parle. Je pense qu'ils disent que ne serait-ce que deux livres offerts par chaque fan de Tolkien feraient en sorte qu'ils auraient la somme suffisante. Même si moi, je me disais que l'héritage de Tolkien, ça suffirait peut-être. Mais enfin bon, ça a l'air que non. voilà. Alors écoutez, Julia Golding, voilà, qui est celle qui est à la tête de cette levée de fonds. Elle dit que lever 6 millions de dollars en 3 mois, oui, c'est un défi de taille, mais elle est convaincue qu'ils vont y parvenir. Alors évidemment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on a de M. Tolkien? À quoi ça ressemble, le Seigneur des Anneaux? Je me suis amusé à faire un petit montage avec deux opportunités de lecture, deux livres audio différents où on va retrouver nos amis hobbits et le personnage de Gandalf notamment.
Selon le livre rouge, Bandobras Touk, fier taureau, fils d'Isumbras III, mesurait 4 pieds 5 pouces et pouvait monter à cheval. Dans toutes les chroniques Hobbit, il ne fut surpassé que par deux célèbres personnages de jadis, mais cette étrange histoire sera abordée dans le présent livre. Quant aux Hobbits du comté dont il est question dans ces récits, au jour de leur prospérité et de leur paisible existence, c'étaient de joyeuses gens. Ils s'habillaient de couleurs vives, avec une préférence marquée pour le jaune et le vert. Mais ils portaient rarement des chaussures, ayant la plante des pieds dure comme du cuir et recouverte d'un épais poil brun et frisé très semblable à leur chevelure, laquelle était généralement brune. Ainsi, le seul métier qu'ils ne pratiquaient pas couramment était la cordonnerie. Mais ils avaient de longs doigts habiles et pouvaient fabriquer bien d'autres choses utiles et belles. Leur visage était d'ordinaire plus enjoué que joli, large, avec des yeux brillants, des joues rouges et une bouche qui se prêtait volontiers au rire, au manger et au boire. Et pour ce qui était de rire, de manger et de boire, ils le faisaient souvent et avec entrain, ne dédaignant pas une bonne plaisanterie et 6 repas par jour, quand ils le pouvaient.
Bonne journée, dit Bilbo, il le pensait. Le soleil brillait et l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda sous de longs sourcils broussailleux qui dépassaient en bordure de son large chapeau. « Que voulez-vous dire ? » répondit-il. « Me souhaitez-vous une bonne journée ou êtes-vous en train de dire que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non, que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, ou que c'est une journée où l'on doit être bon ?»« Tout cela en même temps, dit Bilbo, et c'est une bien belle journée pour fumer une pipe en plein air, qui plus est. Si vous en avez une, asseyez-vous et prenez un peu de mon tabac, rien de presse, nous avons toute la journée devant nous. » Bilbo s'assit donc sur un banc près de sa porte, croisa les jambes et produisit un beau rond de fumée grise qui monta dans l'air sans se dissiper et alla flotter au-dessus de la colline. « Oh, 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 très joli !» dit Gandalf. « Mais je n'ai pas le temps pour les ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un qui participerait à une aventure que j'organise en ce moment et j'ai peine à trouver un volontaire. » Pas étonnant. Dans ce voisinage, nous sommes des gens simples et tranquilles et les aventures ne nous intéressent pas. Quel tracas, quel inconfort. Quelle horreur! De quoi vous mettre en retard pour le dîner? Je ne vois pas ce qu'elles ont d'attirant, dit notre monsieur Bessac, glissant un pouce derrière ses bretelles. Et il lança un nouveau rond de fumée, encore plus grand que l'autre.
Vous avez l'oreille, peut-être que vous aurez reconnu que c'était la même voix qu'un petit peu plus tôt dans l'émission, celle de Dominique Pinon. Moi, il fait partie vraiment de ceux que je peux écouter pendant des heures et des heures et des heures. C'est un régal, de lecture à haute voix. Alors voilà pour Tolkien. Je voudrais rester un petit peu dans la même ambiance avec Haruki Murakami, lu cette fois-ci par Laurent Natrella. Le livre, c'est La fin des temps. C'est, nous dit-on, un roman qui concentre à lui seul tout le réalisme magique de Murakami. Nous sommes dans une petite cité spectrale où vivent des gens privés d'ombre et de sentiments. Et parmi eux, il y a un nouveau venu qui a pour tâche de lire les vieux rêves dans des crânes de licorne, attrapant des fragments de mémoire dans une autre vie et d'une autre dimension. En parallèle, nous sommes dans un Tokyo futur, ascétique et déshumanisé. Un homme est entraîné par un scientifique dans une dangereuse expérience qui le fera plonger dans les sous-sols de la ville animée de créatures monstrueuses. Est-ce là que se trouve la clé de l'énigme, la solution du mystère qui lie ces deux mondes? C'est le quatrième roman de Murakami, La fin des temps, un extrait.
Pas de doute, c'était un véritable cercueil. J'avais beau y réfléchir, je ne comprenais pas comment la compagnie de lutte contre les incendies avait pu donner son accord à la construction d'un ascenseur pareil. Il devait quand bien même y avoir une réglementation sur les ascenseurs. À force de fixer ces quatre murs d'acier impeccablement lisses, je finis par repenser à Houdini, ce grand illusionniste que j'avais vu en film quand j'étais gamin. Complètement ficelé de cordes et de chaînes, il se faisait enfermer dans une malle, entourée elle aussi de lourdes chaînes bien serrées, qui étaient ensuite jetées du haut des chutes du Niagara ou enfouies dans les glaces de la mer du Nord. Je respirais une fois à fond, lentement, puis essayais de comparer calmement ma situation avec celle de Houdini. Avantage, je n'étais pas attaché. Mais d'un autre côté, je ne connaissais pas les trucages, et ça, c'était plutôt à mon détriment. En y réfléchissant, les trucages, je n'étais pas prêt de les découvrir. Déjà, je ne savais pas si l'ascenseur marchait ou non. Je toussais une fois, histoire de faire une tentative. Le résultat fut un peu bizarre. Cette toux ne résonnait pas comme une toux. Elle rendait un drôle de son mat, comme de la glaise molle projetée sur un mur de béton complètement lisse. Je n'arrivais pas à croire que c'était moi qui avais émis ce bruit.
Ça aussi, ça donne envie, Tolkien, ça... Qui me disait, un de mes invités récemment, que ce qui est fantastique avec le livre audio, c'est que c'est un... C'est un art imparfait. C'est-à-dire qu'il y a, des voix qui peuvent plaire à certains et qui ne vont pas plaire à d'autres. Bah, remarquez, c'est vrai pour l'art en général, parce qu'après tout, toutes les peintures ne plaisent pas à tout le monde, toutes les chansons ne plaisent pas à tout le monde. Donc finalement, c'est vrai aussi pour la lecture à haute voix. J'espère, mes amis, que dans le cadre de cette émission, des livres plein les oreilles, qui va bientôt célébrer son 200e anniversaire, anniversaire 200e comme j'y vais, la 200e émission voilà, que nous allons célébrer d'ici quelques semaines ensemble, et bien j'espère qu'elle vous donne envie de lire autrement, de vous glisser dans la, dans la voix de ces lecteurs qui vous racontent des histoires comme peut-être vos parents vous en racontaient quand vous étiez petit. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission Des livres pleins les oreilles. Je voudrais remercier l'infatigable aventurier du langage et de la communication qu'est Guillaume Dulude qui nous a offert cette entrevue et ce livre audio « Je suis un chercheur d'or ». Je voudrais remercier Jean-Sébastien Laliberté et notre ami Maurice Bolduc qui était en régie aujourd'hui. C'est Clotilde Seil qui vous souhaite une belle semaine de belles lectures par les oreilles. Salut! Thank you.